Bonjour et bienvenue dans ce numéro du Labomatique. Aujourd'hui, nous évoquerons la soirée Science en cours qui a eu lieu au Diapason pour sa 10e édition. C'était le festival du court-métrage scientifique. Et avec nous autour de la table, Fanny Rulant, c'est bien Rulant, hein, c'est ça ?
Rulant, oui.
Membre de l'association Nicomac, organisatrice du concours. Vous êtes également doctorante en éthologie animale et humaine.
Oui, c'est ça.
Et également avec nous, Pierre-Peter Longo, chargé de recherche à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, et membre du jury de Sciences en Cours.
Oui, tout à fait, bonjour.
Ouais, bonjour, et parmi les 7 membres du jury, c'est ça ? 6 ? 6 ou 7 ?
On ne sait plus, il faut qu'on recompte.
Oui. Lisa Chédic également, doctorante en faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques. Bonjour, vous avez proposé un court-métrage qui a eu l'honneur de recevoir le 2e prix du jury, le coup de cœur du public et le coup de cœur des lycéens.
C'est ça.
Et le grand gagnant, eh ben, il n'est pas là. Il s'est installé dans les méandres de la circulation routière rennaise, coincé dans la rocade. On le soutient dans cette douloureuse épreuve. On va peut-être même pouvoir l'avoir au téléphone pour cette première partie d'émission.
Le Labomatique.
L'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Alors, une première question à vous, Fanny. Vous êtes membre de l'association Nicomac qui organise le festival Science en cours.
Oui.
C'était une 10e édition. Alors, les premiers ressentis, c'était une sorte d'anniversaire ?
Une sorte d'anniversaire, oui. Donc, on a essayé d'avoir des lots un petit peu particuliers pour les gagnants. Et on a été très surpris et agréablement surpris du fait de la qualité des courts-métrages de cette année. Et c'était un vrai plaisir d'organiser cette 10e édition et on est très content du résultat.
Oui, autre chose, comment se passe l'organisation d'un tel festival sur une année? Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet en fait d'étudiants d'année en année? Il n'y a pas une personne qui s'occupe de ça chaque année, à chaque fois c'est un nouveau cycle qui redémarre.
Voilà, c'est ça. En fait, la plupart du temps, les organisateurs des différentes éditions, ce sont d'anciens réalisateurs. En général, quelqu'un réalise un film et l'année d'après, il veut faire partie de l'organisation. Donc c'est mon cas, j'ai réalisé un film il y a 2 ans, donc l'année dernière je fais partie de l'organisation, donc on m'a transmis un petit peu tous les méandres de l'année d'organisation, et cette année c'est à mon tour, j'ai transmis aux nouveaux organisateurs cette année comment organiser un festival. Et c'est assez long, donc ça dure vraiment une année, de septembre à novembre, donc il y a le recrutement des réalisateurs, donc dans les différentes écoles doctorales, des différents labos, ensuite il y a des formations données aux réalisateurs, ensuite il y a le tournage des films, les montages, le festival et ensuite tout le bilan de l'année qui se fait là au courant juin-juillet. Donc c'est vraiment une année d'organisation complète, quoi.
Alors je reviens vers vous, Lisa Chédic. Félicitations d'abord pour toute cette valse de prix.
Merci.
Bon, pas forcément le gagnant, mais alors non. Qu'est-ce que ça fait de recevoir tous ces prix? C'était inattendu
Ouais, c'était inattendu. Je pensais pas qu'on aurait autant de prix. Moi, je visais vraiment le prix du public, donc j'étais très contente vu que ça reste de la vulgarisation scientifique, que ça a été apprécié par un public large, mais c'était super de recevoir tous ces prix. On s'y attendait pas du tout, vu le niveau en plus des films de cette année. Donc, contente.
D'accord. Alors, tout de suite, un petit extrait de l'annonce des différents vainqueurs. Voilà, notre preneur de son était dans la salle. Le preneur de son, c'était moi. J'avoue que je ne me félicite pas pour la qualité de cette prise de son, puisque j'ai la bonne idée de me mettre. Merci Clémence pour cet aperçu. Clémence, c'est notre technicienne que je salue d'ailleurs, qui réalise exceptionnellement ce Labomatique aujourd'hui. Et donc, j'ai eu la bonne idée de me mettre au milieu de la salle. C'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. J'aurais dû me mettre devant, mais bon, ça ne vous empêchera pas d'apprécier le décompte.
Le troisième prix a été décerné à l'unanimité du jury à Une petite histoire de symbiose. Alors, le deuxième prix, toujours à l'unanimité absolue du jury, et pour contredire un tout petit peu les pronostics, est accordé à Bugbusters. On a récompensé et on a laissé le premier prix au désengagement moral.
Voilà la leçon de ce soir, finalement, le désengagement moral qui vous apporte la victoire.
Oui, donc le désengagement moral dont on parlera un peu plus tard avec Nicolas Frébert qui doit être à cette heure-là encore coincé dans les bouchons. Un petit point avant de revenir à vous, Lisa Chédic, pour parler de Bugs Busters, parce que c'est ça, c'est bien Bugs Busters hein, que
oui,
vous avez réalisé. Je reviens encore vers vous, Fanny, pour nous parler de cette organisation. Il y avait de l'animation, ça s'entendait. C'était, il y avait un animateur, il y avait même des petits sketchs entre la diffusion des films pour qu'on ne s'ennuie pas.
Alors en fait, cette animation a été réalisée par la Puzzle Company, donc c'est une troupe d'improvisation qui se situe au Jardin Moderne. Et ça fait déjà plusieurs années, il me semble que ça fait 8 ans, qu'il anime la soirée de gala de Sciences en Cours et l'après-midi des lycéens. Donc c'est une association entre le festival et la Puzzle Company qui marche bien parce que voilà, il y a des petits sketchs, il y a des moments marrants, mais il y a aussi des questions, etc., qui sont posées par les membres de la Puzzle Company aux réalisateurs. Et ça permet un peu de lancer le débat entre le public et les réalisateurs. Et ça permet aussi de passer une bonne soirée.
Ah bah c'était réussi d'ailleurs, ça a duré jusqu'à presque 23h30.
Minuit. Oui, ça a duré longtemps, oui.
Ouais. C'était pas pour nous déplaire. Et donc je reviens voir vous, Lisa. Bugs Busters, ça parlait de pesticides, c'était votre sujet d'étude.
Voilà, c'est mon sujet de thèse. Donc du coup, moi j'étudie les effets des pesticides sur les cellules humaines. Et dans mon court-métrage, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est inverser plutôt les rôles et du coup que ce soit les pesticides qui nous parlent et qui nous expliquent que certains instituts de recherche font des travaux sur eux et que du coup, ça risque d'entraîner des interdictions. Donc c'était la forme inverse.
Alors vous étiez plusieurs sur ce court-métrage parce qu'on peut voir au générique plusieurs noms.
Oui, on était 4.
C'est le moment de faire des remerciements. Faut y aller.
D'accord, bah du coup je remercie mon équipe, donc Rémi Bois, Lida Léal et Yann Lefaou, qui ont fait ce court-métrage avec moi. Voilà.
Quelle méthode d'animation vous avez utilisée? C'est pour que je puisse bien retranscrire à nos auditrices et à nos auditeurs.
C'est du papier découpé, c'est du stop motion.
C'était du stop motion, donc en papier découpé. Ouais. Donc voilà, c'était des petits personnages, donc ils étaient tout mignons, ils nous parlaient avec des petites voix. Et tout de suite, un extrait de Bugs Busters.
Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour faire le bilan de notre situation actuelle et des menaces qui pèsent sur notre futur. En effet, de plus en plus de pesticides sont interdits en France comme ailleurs, à cause encore et toujours de la recherche scientifique. Mais tout d'abord, le bilan financier. Les marchés se portent bien. La France est toujours le premier consommateur de pesticides en Europe. La part des cultures consommées par les insectes est en baisse, comme l'an passé. Au niveau des valeurs, l'indice du Roundup prend 4 points, tandis que le Red 40 se porte bien. Dans ce climat favorable, qui se consacre notamment à l'étude de nos effets sur l'organisme des humains. L'homme est constitué de milliards de cellules, qui diffèrent selon les tissus. Les cellules communiquent avec le milieu extérieur grâce à des transporteurs situés à leur surface. Les transporteurs permettent à la cellule de faire entrer de manière spécifique les molécules dont elle a besoin pour fonctionner, comme les nutriments, les vitamines ou les hormones. Mais aussi de faire sortir des molécules toxiques qui lui sont nuisibles, comme les polluants ou encore certains médicaments. Dans une cellule humaine, de nombreux transporteurs s'exprimer un type de transporteur à sa surface. Pour mesurer l'activité du transporteur, on envoie un éclaireur fluorescent connu pour être pris en charge par ce transporteur. En situation normale, l'émissaire rentre dans la cellule et émet une lumière détectée par les chercheurs. En présence d'un pesticide inhibiteur de ce transporteur, l'éclaireur ne peut pas rentrer. Et aucune lumière n'est émise dans la cellule.
Ça va faire tout noir.
Ta gueule.
Merci à ces petites bestioles toutes sympathiques et très polies de nous avoir expliqué comment fonctionne le petit monde des pesticides. C'était votre sujet d'étude, Lisa. Et alors, comment on réussit à bien transmettre l'information auprès d'un plus grand public alors qu'on a l'habitude de plancher sur ce travail-là pendant un an, voire beaucoup plus d'années?
Ouais. Alors, c'est pas facile, en fait. C'est vraiment du travail. Et ça nous a demandé beaucoup de temps, parce que du coup, dans notre petit monde, on est confronté tout le temps à des chercheurs de notre domaine. On n'a pas l'habitude d'expliquer certaines choses. Et en fait, on s'est confronté déjà à des gens de notre famille, à des amis, pour leur expliquer notre sujet. Donc les formations aussi avec Julien Le Bonheur, qui nous a expliqué un peu comment bien vulgariser.
Bon, Julien Le Bonheur, directeur de la communication de Rennes 1.
Oui, c'est ça. Ouais.
Préciser. Voilà.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait certains postulats de base qui étaient faux. Par exemple, le fait que tout le monde savait ce que c'est qu'une cellule, vu que moi je suis dans la biologie depuis longtemps, on ne se rend plus trop compte. Donc ça nous a permis de nous rendre compte du réellement, des choses qu'il faut expliquer pour pouvoir faire comprendre mon sujet à un public très large. Mais après, c'est pas simple. On a eu au moins 3 ou 4 scénarios différents qui avaient à chaque fois des points faibles et on a fini par trouver le scénario qui parlait au plus de monde, je pense.
C'était quoi ces points faibles, si on peut en savoir un peu plus?
Par exemple, des scénarios qui expliquaient qu'une seule partie de l'histoire. En fait, on a beaucoup. Par exemple, on avait un scénario où on regardait juste, pour ceux qui ont vu le film, mais le passage d'une molécule dans un transporteur. Et en fait, c'était un gros zoom de cette partie-là, ce qui fait qu'on manquait de contextualiser tout ce qu'il y a autour, que c'est un pesticide, où est le transporteur dans la cellule et tout ça. Et, tout ça. Et donc, c'était des erreurs qu'on avait faites, ce qui fait qu'on avait un manque de compréhension quand si on avait réalisé un film comme ça. Je pense que tout le monde n'aurait pas compris ou peut-être que les gens auraient compris certaines choses qui sont fausses.
Et comment on fait pour concilier son temps d'études, conséquent puisque vous êtes en doctorat, et le temps qu'on met pour participer activement à la fabrication du film?
C'est un peu prenant quand même. Du coup, les formations organisées par Nicomac, c'était le soir. On en a eu 4.
Oui, 4. Ouais.
Et après, c'était plus des réflexions dans les bars avec les membres de l'équipe pour voir un peu les idées de chacun, etc. Et après, donc, 2 jours de tournage, c'était les conditions du concours. Alors après, nous, on a monté notre film vu que c'était du stop motion et qu'on ne pouvait pas se permettre de donner 1000 images à Vincent, qui est le monteur du festival. Du coup, nous, on a eu 1 mois à peu près de montage tous les soirs derrière aussi. C'est quand même prenant. Après, ça n'empiète pas sur le travail du labo vu que c'est toujours le soir ou le week-end.
Comment il a mûri ce projet-là? C'était combien de temps on met à réaliser un film pareil?
J'ai été à la réunion d'information en novembre un petit peu pour voir comment c'était. Pas forcément dans l'idée de faire un film, pas forcément sur mon sujet. Je voulais plutôt un peu ouvrir mes chakras et voir d'autres thématiques. Et donc au final, mon sujet a parlé à beaucoup de gens. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus vers moi. Alors comme on a changé 1000 fois de scénario, je crois que le bon scénario, on l'a eu en mars. Donc c'était plutôt des réflexions et puis des discussions. Et puis après, le papier découpé, on l'a fait la veille et le jour J. Donc on n'était pas très très bien préparés.
Je vois Pierre-Peter Longo qui hoche de la tête. Vous avez pu suivre ces histoires-là de près?
Ah non, j'ai un rôle de jury. J'ai découvert les films le jour J et j'ai pas participé du tout à la préparation du festival. Moi, je me suis assis dans un fauteuil et j'ai regardé les films et après, j'ai donné mon avis.
Voilà. Eh bien, ça tombe bien parce que vous aurez l'occasion de donner votre avis après cette courte pause musicale avec une annonce de film, justement. Alors, non, ce ne sera pas une annonce de publicité, mais le titre Ads, qui veut dire publicité, justement, est par le groupe Movie. Donc, ça date de 2014, Movie Ads, sur Radio Campus Rennes, dans le Labomatique. See? Ads, la publicité de film par Movie. Movie, c'est un groupe anglais qui n'a pas fait grand-chose d'autre depuis ce titre en 2014, à part sortir un album nommé Rough Music, d'où est issu ce titre. Et aussi changer de nom pour me compliquer un peu plus la vie dans mes recherches, parce que quand vous tapez Movie Ads, bah, vous tombez forcément sur des publicités de films. C'est très embêtant. Donc, il s'appelle maintenant Screaming Pitches, ça doit être l'équivalent de Pêche Melba, en traduction française, enfin, je crois. On va revenir à des choses un peu moins gastronomiques. On va revenir sur votre rôle au sein du jury, Peter Longo. Comment on fait pour choisir en fait, le bon film, celui qui va gagner? Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir à la fois quelque chose de bien intelligible, mais aussi quelque chose qui soit bien fait visuellement, et puis qui soit agréable à regarder.
Tout à fait, il y avait tout un ensemble de critères à prendre en compte. Des critères esthétiques, pour avoir quelque chose de beau, des critères de scénario, pour ne pas s'ennuyer. Éventuellement, quand il y avait de l'humour, bah, forcément, on était touchés. Et puis, bien sûr, un des points les plus importants, les points cruciaux, c'est cet aspect vulgarisation. À la fois l'effort qui a été mis dans la vulgarisation et à quel point ça a fonctionné, à quel point les films étaient accessibles. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile de rendre accessible en 5 minutes un sujet aussi pointu que les pesticides, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qui ont été discutées pendant le jury, qui ont été mis en avant. Donc c'est difficile en fait de se faire un avis comme ça en quelques minutes sur sept films et de mettre certains critères les uns par rapport aux autres, voir qu'est-ce qui était vraiment réussi, pas réussi dans chacun des films et ensuite faire un classement comme ça en 20 minutes avec 6 personnes autour de la table. C'est un défi pas évident à réaliser, mais cette année ça s'est plutôt bien passé. Tout le monde était à peu près d'accord sur les choix dès le début et les discussions ont été rapidement tranchées finalement.
Pour preuve, puisque Bugsbusters, dont nous avons parlé en première partie d'émission, a raflé, le deuxième prix du jury, le coup de cœur du public et le coup de cœur des lycéens. Il y a également, en troisième prix du jury, une petite histoire de symbiose. J'ai également nommé, pour plus d'égalité, le reste des participants. Il y avait Light Matters, La thèse dans la peau, Les interfaces cerveau-machine, ainsi que Arnaque-moi si tu peux. Et puis, bien sûr, Le désengagement moral, le premier prix du jury, dont nous allons vous passer un extrait pour vous mettre dans l'ambiance ces deux personnes qui marchent la nuit dans la forêt, l'un avec une pelle et l'autre qui passe son temps à discourir sur certains... Sur certains quoi ?
Sur certains.
Oui. sur les mécanismes de défense psychologique qui légitiment nos actes. Voilà, je l'avais noté. Extrait.
Tiens, dernièrement, j'ai eu des études de psychologie sociale qui étaient plutôt sympas. T'as un tas de chercheurs qui montrent qu'en fait, on estime assez mal les déterminants de nos comportements.
Ouais, et t'es vraiment sûr de vouloir parler de ça maintenant? T'as pas l'impression qu'on a d'autres trucs sur le feu, là?
Par exemple, mettons que je voudrais comprendre l'origine d'un comportement violent. Bon, et ben en fait, d'un point de vue purement statistique, il y a tout un tas de facteurs qui ont pu favoriser ce comportement. Comme le fait d'avoir le visage masqué, le fait d'être dans l'obscurité, ou le fait d'être imbibé d'alcool comme tonton Bernard à la fin d'un réveillon. Et bah tous ces facteurs diminueraient notre capacité à raisonner sur les conséquences morales de nos actes. En clair, si je combine tous ces facteurs en même temps, et bah je suis davantage susceptible de faire des trucs qui sont franchement pas jojo.
Ouais super, sinon tu veux pas m'aider à creuser là?
Et alors, t'as une autre défense psychologique aussi qui est pas mal, c'est la déshumanisation. En gros, c'est quand tu considères que les êtres humains sont pas forcément tous des êtres humains. Que t'as certains groupes, bon bah voilà quoi, ils sont un peu en dessous de la moyenne. C'est particulièrement le cas avec les groupes qui font l'objet de stéréotypes.
Non mais sans déconner là, j'en ai ras le cul.
Inconsciemment, on considérera que ces personnes manquent de sensibilité ou de capacité mentale. Et donc elles sont plus facilement assimilées à des animaux ou à des objets. Mais en fait, ce phénomène de déshumanisation est bien présent au quotidien. Seulement on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'il agit à un niveau inconscient. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais qu'au contraire, il influence nos jugements et nos comportements sans qu'on s'en aperçoive. À une moindre échelle que celle d'exterminer tout un peuple, ça peut simplement consister à passer à côté d'un SDF et de l'ignorer comme s'il n'existait pas.
Formidable! Bon maintenant, sans te commander, soit tu m'aides, soit je me sentir obligé de creuser un deuxième trou.
Tu vois, tu recommences à être agressif.
Voilà la très sympathique discussion entre Nicolas Frébert et son acolyte au sein d'une forêt non identifiée à ce jour. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film pour que vous le nommiez premier prix du jury ?
Alors, il y avait beaucoup de choses. Tous les films étaient bien. Je pense qu'il faut faire attention. Tout à l'heure, je disais qu'on a pris une décision très vite. En fait, tous les films étaient vraiment intéressants et tous auraient mérité des prix. Donc, les choix ont été faits rapidement, mais n'étaient pas si simples que ça. Et ce premier prix du jury a été obtenu pour un ensemble de critères. Au niveau photographique, il était superbe. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil à ce film sur Internet pour voir les images qui étaient magnifiques. C'était des sciences humaines et sociales aussi.
Oui, c'était le seul participant de Rennes 2, d'ailleurs, je crois. Hein. Ouais. Nicolas Frébert, doctorant en sciences humaines et sociales.
Ah non,
oui,
bah
c'est
oui,
peut-être
qu'à
Rennes 2.
Oui, il y a les tiens. Dans mon équipe, du coup, j'ai deux personnes en sciences sociales et en linguistique, informatique. Donc non.
Mais c'est vrai qu'habituellement, c'est plutôt la science qui est représentée.
Ouais. Oui, ce qu'on appelle
la science expérimentale.
C'est vraiment la science dure, oui.
Et du coup, ça nous a fait plaisir de donner un premier prix à des sciences humaines, mais ce n'était pas la raison principale. Bien sûr, on a trouvé que l'aspect vulgarisation de ce domaine, qui est vraiment délicat, je pense, à vulgariser, était très bien passé. L'ambiance du film est géniale. Voilà, les messages ont bien fonctionné, ont donné envie de comprendre un peu plus, ont donné envie de se pencher sur ce sujet, et ont ouvert les portes, ont ouvert nos chakras, comme vous disiez tout à l'heure, vers ce domaine-là. Et je pense que du coup, nous pensions que, de ce fait, c'était une réussite du film.
C'est vrai que c'était très agréable à regarder, la lumière, en effet, était très joli. Pour une histoire qui se passait la nuit, on arrivait à bien voir, comme deux jours. C'est vraiment le propre de...
C'était une nuit américaine, je crois.
Oui,
il me semble que ça s'appelle comme
on
ça.
Appelle ça. Oui, c'est vrai, on appelle ça comme ça. Parce que dans la réputation des films américains, on voit tout, même de nuit. Voilà, nous avons la chance d'avoir Nicolas Frébert en direct de la rocade rennaise qui va nous exprimer sa joie d'avoir remporté le premier prix du jury lors du festival Science en cours. Nicolas Frébert, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes sur la rocade, ça va, vous en êtes bien sorti?
Ça va, j'ai survécu au bouchon de cet après-midi, oui.
C'est donc la raison pour laquelle on vous a par téléphone aujourd'hui. Donc vous avez gagné le premier prix du jury pour votre court-métrage Le désengagement moral. Tout d'abord, félicitations. Et puis, c'est une affaire de sciences sociales. Quelle a été la plus grosse contrainte, en fait, par rapport à tous ces courts-métrages où il était souvent question de sciences dites dures? Quelle a été la difficulté de relater on n'était pas dans des histoires de molécules ou de démonstrations, mais bien de faire comprendre, de faire passer une idée, un message, en fait.
La plus grosse contrainte, je pense qu'en fait, c'était plus simple d'aborder un sujet sur les sciences sociales, peut-être que sur les sciences dures, puisque finalement, il est question de relations humaines, de notre rapport aux gens. Et finalement, peut-être que ça se prête un petit peu mieux à une mise en scène devant la caméra qu'avec, je sais pas, une explication sur la base de molécules ou ce genre de choses. Donc finalement, après, la contrainte, c'était d'essayer de trouver une sorte de mini-histoire en 5 minutes. Finalement, la plus grosse difficulté, c'était ça, en fait. C'était la contrainte du temps, puisque 5 minutes, c'est très court. Donc pour expliquer quelque chose et en même temps rendre ce sujet attractif, il faut être efficace, on va dire, en 5 minutes.
Et l'image, c'est aussi en partie pour ça que votre court-métrage a fait l'unanimité auprès du jury. Est-ce que vous vous êtes pourvu de moyens supérieurs à ceux des autres ou c'était un choix d'avoir cette belle image comme ça?
En fait, oui, c'est un petit peu la surprise que ça rende aussi bien, puisqu'en fait, au départ, pour le scénario, c'était quand même beaucoup plus sympa que ce soit de nuit que de jour. Comme on n'avait pas les moyens techniques pour le faire de nuit, on a filmé deux jours. Et après, la transition en fait de l'image a été faite avec un logiciel. Et la surprise, c'est que ça rend effectivement aussi bien, avec le logiciel. J'espérais en fait un résultat qui soit plutôt bon, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien en fait. On arrive à faire vraiment des choses géniales avec des logiciels informatiques. De nos jours.
On va tout de suite passer à la question de l'après, l'avenir comme ça, après avoir reçu ce premier prix. Comment ça se passe? On continue ces études, que vous êtes en doctorat de sciences humaines et sociales, on continue ou alors est-ce que ça a donné envie, cette expérience de sciences en cours, de se lancer un peu plus dans la réalisation, dans le cinéma?
Alors ça, c'est sûr que le côté réalisation, ça a un aspect peut-être un peu plus enthousiasmant que de faire de la recherche, mais en fait, les deux me plaisent beaucoup et c'était aussi ça tout le plaisir que j'ai eu à participer à ce festival, c'est qu'en fin de compte, je pouvais à la fois travailler sur la recherche et en même temps faire une communication sur ce sujet auprès d'un public, effectivement, avec un travail de réalisation, d'écriture, et c'est des choses qui me plaisent beaucoup. peut-être pas au point de lâcher ma thèse et de m'y consacrer entièrement, mais par contre, oui, c'est clair que ça me motive après pour l'avenir à faire d'autres projets de ce type-là et éventuellement de réaliser d'autres courts-métrages, oui, ça complètement.
On vous le souhaite en tout cas, s'ils peuvent avoir la même réussite que le désengagement moral, donc premier prix du jury. Merci Nicolas Frébert d'avoir bien voulu nous répondre en direct de votre voiture sur la rocade rennaise.
Merci.
Puis à bientôt.
À bientôt.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Merci à Nicolas Frébert de nous avoir répondu au micro, au téléphone de Radio Campus Rennes. On va faire un tour des actualités de chacun d'entre vous, à commencer par vous, Lisa. Qu'est-ce qu'on fait après avoir eu autant d'honneurs lors de ce festival? Est-ce qu'on continue sa vie d'étudiant de doctorant? Ouais, j'en doute pas. On a la grosse tête, comment ça se passe?
Non, ça va. Bah, du coup, par rapport à la réalisation, je pense que je vais participer à la réalisation d'un autre film l'an prochain. Puis peut-être faire partie de l'organisation. Enfin, je vais voir un petit peu, parce que du coup, j'ai un peu envie de continuer avec ce festival.
Est-ce que ça donne des envies de réalisation? Est-ce que les envies de réalisation ont tendance, et même avec vos collègues, à prendre le pas sur votre vie universitaire? Est-ce qu'elles ont tendance à prendre le pas, peut-être, sur vos...
Oui, je pense que ça donne envie. Par exemple, moi, l'animation, je pensais vraiment que c'était quelque chose de très compliqué et de très long. Et au final, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire sur un week-end chez soi. Donc, du coup, ça donne envie d'aller plus loin, peut-être de faire des formats un peu plus longs. Pareil, de la vulgarisation scientifique. Moi, j'ai toujours aimé un petit peu passer des connaissances. Ça donne envie de s'y mettre, je trouve.
D'accord. Les actualités de Nicomac, vous organisez le festival Pint of Science, ça n'en finit pas avec les festivals.
Voilà. Alors, moi, je fais partie de l'organisation juste du festival Science en cours, mais en effet, Nicomac organise Pint of Science, pour la première fois à Rennes, où des doctorants, des chercheurs se rencontrent autour d'une bière et parlent de science et de différents projets. C'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres villes en France et qui arrive sur Rennes. Et il y a également le forum Docteur Entreprise, qui est organisé également par Nicomac, où des entreprises et des doctorants se rencontrent également pour parler science et pourquoi pas futur emploi.
D'ailleurs, oui, en parlant d'emploi, est-ce que la présentation et les honneurs d'un film comme ça peut légitimer une éventuelle embauche plus tard sur le monde du travail, Lisa?
Faudrait demander à Pierre qui est CR, mais je doute que l'INSERM et le CNRS regardent ce qu'on a sur Dailymotion.
C'est dommage parce que ça vaut le coup.
Moi, je pense que ça peut jouer dans un CV, montrer que vous êtes ouvert à la vulgarisation, qui est un aspect super important de la recherche, d'être capable de transmettre au grand public ce qu'on fait. Je pense que des recruteurs peuvent être sensibles à ce genre de choses, pas uniquement dans les services com, mais également dans les services scientifiques.
Surtout que c'est pas fini pour toi, Lisa, parce que tu vas participer à Cinémathèse.
Oui, oui.
Où les festivals de courts-métrages scientifiques de Paris, La Rochelle et Rennes se rencontrent. Donc, c'est les lauréats des trois festivals. Et donc, il y a un lauréat final avec un prix du jury et un prix du public national. Ce sera donc l'année prochaine, au mois de février-mars. Donc, soit à Paris, soit à La Rochelle.
Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être venus sur ce plateau de Radio Campus Rennes pour évoquer avec nous le festival Science en cours qui en était à sa 10e édition. Merci Fanny Ruland, Pierre Peter Nongo, Lisa Chédic et Nicolas Frébert, donc en direct de la rocade de Rennes, pour avoir évoqué avec nous ce festival Science en cours. Il y aura une 11e édition.
Oui.
Fanny, l'année prochaine.
Oui. Si les réalisateurs de cette année prennent la relève entre organisateurs, il n'y a pas de souci, oui.
On le souhaite et on peut retrouver tous les cours, gagnants ou pas, de ce festival sur le site Science en cours. C'est scienceencours.fr, c'est ça ?
C'est ça, scienceencours.fr.
Bah, très bien. Merci encore à vous d'être venus. Vous pouvez retrouver cette émission, Le Labomatique, sur radiocampusrennes.fr. Et merci à Clémence, notre réalisatrice, pour ce Labomatique, donc exceptionnellement affublé d'une technicienne. Clémence, oui, un mot ?
Merci.
C'est tout, c'est concis, c'est court, comme les courts-métrages qui étaient honorés ici sur cette émission, Le Labomatique, pour le festival de court-métrage Science en cours. À bientôt et n'oubliez pas de rester curieux.
Merci à tous d'être venus et à l'année prochaine. There's something strange in the neighborhood. Who are you gonna call? Birds Busters!
call Ghostbusters!